Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Théma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce plateau radio en direct du Forum des associations 2026, ici même à l'espace événement Georges Fraîche demande. On va être ensemble jusqu'à 15h50 avec différentes associations qui vont venir parler de leur actualité et donc de cette nouvelle saison qui débute en ce mois de septembre 2026. Pour animer cette émission, je suis avec mon collègue Ludovic Terrol. Bonjour Ludovic.
Salut Thomas, salut à tous.
Et puis on va directement commencer par notre premier plateau parce que Mende, l'une des caractéristiques de Mende, c'est voilà, une ville qui a été deux fois élue la ville la plus sportive de France, près de 60% de pratiquants d'activité physique et plus de 7500 licenciés pour environ 13 000 habitants. Et donc pour ça qu'on a voulu commencer ce plateau avec différentes associations du sport. Et donc je vais commencer avec le Mende-Lozère Volleyball, en plus qui sont nos voisins de bureau, avec Delphine. Bonjour à vous.
Bonjour.
On a également Anne du Mende Gévaudan Club. Bonjour.
Bonjour.
C'est ça, handball, oui, Mende Gévaudan Club handball, voilà.
C'est ça.
Pour le handball, pour représenter le basket, Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour.
Et puis du col, nous avons Yann. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Peut-être, on va présenter après vos différentes structures, mais commencer sur ce constat-là, 7500 licenciés pour environ 13 000 habitants. Qu'est-ce qui fait que, comme ça, Mende est une ville ultra sportive ?
Moi, je dirais tout d'abord par rapport à ses infrastructures. Donc, on a la chance d'avoir une ville avec peu d'habitants, on va dire. Alors, une chance ou pas, mais en tout cas, du coup, qui n'est pas forcément très étalé. Et on a été très bien lotis, on va dire, au niveau des infrastructures. Je pense que ce soit pour le foot, le rugby, les sports intérieurs. Donc ça permet de développer, surtout quand on a les gymnases à proximité des écoles.
Justement, peut-être parler de ça, on parlait de structures renouvelées. Vous trouvez, par exemple, il y a une toute nouvelle rénovation qui a été faite par la ville de Mende. On débute la saison au handball avec de nouvelles infrastructures.
Alors nous, ce n'est pas une rénovation, c'est une extension qui a été faite. Donc,
attention, c'est une architecte. Il ne faut pas se tromper sur les mots.
On avait déjà un très beau gymnase, donc avec un parquet en bois et de belles tribunes et de beaux vestiaires. Donc ça n'a pas été touché. En fait, nous, ce qui nous manquait essentiellement sur le club, c'était un endroit pour se retrouver, pour accueillir les équipes de l'extérieur, parce que en fait, on est le seul club en Lozère, donc forcément, on a des gros déplacements et donc nous, on fait les efforts de se déplacer, mais on aime bien accueillir les clubs qui font les mêmes déplacements que nous. C'est-à-dire que quand vous faites 3 heures pour venir et 3 heures de route retour, ben, c'est normal qu'ils puissent se poser, avoir une table à l'intérieur, surtout l'hiver, pour pouvoir pique-niquer ou manger quelque chose. Et ensuite, on n'avait pas, nos bureaux étaient pas loin du centre-ville, à côté de l'école Jean Bonijol, fait pas très loin. Et donc là, en fait, pour nous, c'est vraiment pratique parce qu'on a pu avoir deux bureaux et une petite salle de réunion, ce qui permet à, puisque le club compte 4 salariés, donc ça permet à nos salariés d'être sur place. Et oui, et c'est vraiment pour nous un gros plus pour l'association.
On parle de changement, il y a eu un gros changement au niveau de l'AFL avec cette création de club élite. Yann, tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors oui, effectivement, donc au niveau de la rentrée sportive pour le football des jeunes à Mende, effectivement, il y a eu pas mal de changements avec la création d'une nouvelle structure associative qui est présidée par Daniel Tessier, qui s'appelle Elite Football 48. Donc un groupement de clubs exactement au niveau... pour être précis dans les termes, au niveau de la Fédération Française de Football. Et donc le Centre Omnisport Lozère et l'Avenir Foot Lozère ont fusionné quelque part leurs licenciés, donc de U12 jusqu'à U18, garçons et filles, pour pratiquer en compétition sous une nouvelle bannière, donc Elite Football 48, qui joue son premier match là, dans 2 heures au Cos Doge, en Coupe Gambardella. Et puis donc avec une mutualisation des licenciés et des moyens, j'ai envie de dire, Et donc la gestion de cette nouvelle structure va gérer absolument la totalité de la partie compétitive. Donc sur les championnats districts pour les plus petits et puis régionaux sur les plus grands, puisque toutes les équipes sont au plus haut niveau régional aujourd'hui chez les jeunes à Mende. Donc c'est vrai que c'est une chance. Et puis cette nouvelle structure voilà, qui est dirigée par M. Tessier, accompagnée de M. Olivier Dalle de Environnement 48 et puis de M. Xavier Aubry là, de nos voisins de la Banque de France à côté. Donc avec voilà, un bureau issu de divers horizons qui va permettre aussi d'avoir une progression, un développement dans les années futures et qui devrait permettre de continuer à faire avancer la partie football sur le bassin mandois et la Lozère en globalité.
Mais on va parler après un peu de sport loisir, mais là on parle un peu compétition. C'était la suite logique. Je pense aussi au fait que par exemple il y a des belles réussites. Naël Adani qui maintenant se trouve chez les U21 de Monaco qui est passé par l'AFL. L'idée c'est comme ça de faire émerger des talents footballeuses, footballeurs par exemple.
Alors nous, je vais parler plutôt du Centre Omnisports Lozère que de l'AFL, oui. c'est pas ma structure, même si on a une relation très particulière depuis 2013 avec une convention de formation, hein, le Centre Omnisports Lozère et le Centre de formation de l'Avenir Foot Lozère depuis 2013, même si la convention s'est arrêtée le 30 juin 2026 avec la création de ce groupement qui est une suite logique pour nous en tout cas. C'est vrai qu'effectivement on a la chance c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la Lozère a la chance d'avoir quand même un tissu associatif et sportif qui est très riche, très dense. Et donc nous, modestement, le Centre Omnisports, on essaye de permettre à ceux qui ont envie de se diriger vers le haut niveau et qui ont le talent pour, de pouvoir le faire. Donc effectivement, sur la partie football, on a pu accompagner Naël Adani vers Saint-Clément-Montferrier en U17 nationaux, puis ensuite vers Monaco depuis 2 ans. C'est une chance pour lui. Il y a beaucoup d'autres enfants qui sont partis aussi vers des structures entre guillemets, plus prestigieuses sur le niveau national. Mais pas que sur le football, hein, puisqu'il y a également sur d'autres disciplines. Hein, sur, on a encore très récemment eu un champion du monde lozérien en VTT qui a quand même passé 5 ans au col, Naël Roufiac. Donc c'est pas rien, champion du monde du 23 en VTT. 3 semaines avant, rappelez qu'il était quand même vice-champion d'Europe. Bon, finalement, ça commence à faire un palmarès qui ressemble sacrément à quelque chose. Et puis d'autres jeunes, hein, on pense au petit Noah Boucardet, au tennis de table, qui est champion de France l'année dernière, qui nous est le premier élève de l'histoire du centre à être rentré en tant que primaire, puisqu'on les prend nous à partir de la 6e habituellement, et qui là vient de nous quitter pour partir peut-être dans le plus grand club de France avec les frères Lebrun à Montpellier. Donc voilà, c'est des exemples de départ vers le haut niveau qui sont effectivement toujours intéressants et toujours valorisants pour la formation lozérienne au sens large.
C'est intéressant, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des licenciés sont des jeunes. On est là pour former le basket cosmandois. C'est le cas. Il y a quoi comme section un peu de jeunes au sein du club?
Pour la formation, ça débute à 6 ans, jusqu'au moins jeune aussi. Hein, mais le basket, on essaie de le faire pratiquer à peu près à tous les âges. Après, sur la Lozère, c'est un peu pénalisant pour les jeunes parce que c'est le seul club en Lozère, le club de Mende. Donc du coup, toutes les compétitions et toutes les rencontres auxquelles tous ces jeunes qui ont en général jusqu'à 9-10 ans, pourraient participer, c'est sur l'Aveyron, c'est le samedi matin. À 9h, donc ça fait des déplacements très tôt, trop tôt en fait, il faut partir de Mende à 5h, 6h du matin, donc c'est quasiment impossible pour tous ces jeunes. Par contre après on essaie de les encadrer en fait, on essaie de les préparer pour que lorsqu'ils ont 13-14 ans en fait, ils soient prêts, pour ceux qui ont envie de poursuivre hein, aussi, pour entrer dans la compétition et là pouvoir accéder à des championnats sans être complètement, en manque de technique ou en manque de pratique. Donc on organise pas mal d'événements en fait au sein du club pour qu'ils puissent justement progresser.
Oui, à part le foot, en fait, c'est le cas de tous les clubs où il n'y a pas de championnat lozérien. Le volley, c'est pareil.
Le volley, c'est pareil. Championnat régional, forcément, dès les débuts. Hein, donc, c'est pareil. On a décidé du coup d'inscrire les équipes qu'à partir de M13 ou M15, selon les effectifs des années. Mais plus jeune, c'est au niveau logistique très, très compliqué. Donc, des compétitions intéressantes, hein, parce qu'on arrive quand même à avoir des équipes. Et notamment, on a une équipe senior qui va évoluer en National 3 l'année prochaine. Donc, on arrive après quand même à à faire de beaux résultats.
Oui, c'est ça. Tant qu'on est avec vous, Delphine, les gens connaissent très bien le MVL disparu en 2024, mais dès l'année suivante, le MLVB, donc champion d'Occitanie, puis ensuite deuxième de pré-national, et donc là, vous, comme vous dites, N3. Mais j'ai l'impression aussi que vous ne voulez pas abandonner le côté volleyball loisir avec des tournois liés aux écoles, ce genre de choses. Vous continuez
oui.
de le faire?
Oui, oui, il y a toujours aussi du loisir. Alors, il y a du loisir chez les adultes, avec quand même un petit peu de compétition, puisque l'année dernière, on a des équipes qui ont évolué en UFOLEP avec l'Aveyron, et notamment des filles, l'équipe filles qui a été finaliste quand même du championnat en Aveyron. Et chez les plus jeunes, on essaye d'organiser des rencontres avec des équipes comme Rodez, qui eux aussi sont un peu dans les mêmes situations que nous. Hein. Ils ont des territoires où ils sont tout de suite obligés d'avoir beaucoup de routes, et ça permet quand même à nos jeunes de goûter un petit peu à la compétition sans avoir toutes les contraintes des grands déplacements le week-end.
Il y a combien de bénévoles qui encadrent dans chacune de vos associations?
Alors,
au volley,
c'est un peu le problème qu'on rencontre nous
dans
au volley,
d'associations,
c'est, dans beaucoup d'associations et notamment au volley, c'est que comme nous en plus on a un club qui a été relancé il y a 2 ans, donc on est encore tout jeune, pas de salariés, donc tous les encadrants sont bénévoles. Donc on compte beaucoup, on se repose beaucoup justement sur l'équipe de National 3 où on a quelques joueurs qui vont bénévolement encadrer les plus jeunes. Et après, bon, moi aussi j'encadre certaines équipes, les plus petits justement. Mais on n'a pas tant de bénévoles que ça, donc on en cherche, hein, si, que ce soit pour encadrer ou pour accueillir les joueurs des équipes adverses. Tout le monde est bienvenu.
C'est le cas aussi au Hand où les joueurs s'occupent des équipes de jeunes.
Oui, il y a toujours eu, c'est un peu une tradition en fait. On appelle toujours les seniors à donner un coup de main, soit sur la vie du club en tant que bénévole, soit après pour suivre en fait une équipe jeune. Donc c'est un peu, on a un petit système de parrainage, donc en fait chaque senior parraine une équipe de jeunes, et du coup c'est bien parce que les petits viennent les voir jouer le samedi soir, ils s'identifient plus facilement, donc voilà, tout le monde y trouve son compte.
Et c'est ça, on l'a dit, le Mangevo dans le club handball, c'est 4 salariés, vous l'avez dit. J'ai trouvé le chiffre de 300 licenciés, c'est ça aussi. C'est quand même un très gros club à l'échelle lausérienne, par exemple.
Oui, alors la saison dernière, on avait 376 licenciés. Donc on se rapproche tout doucement des 400. Et donc en fait, alors sur les salariés, on a 2 salariés à temps plein, une salariée qu'on partage avec l'AFL, justement, qui fait tout le secrétariat, Véro, donc qui fait demi-temps. Et après, on a un jeune, un apprenti BPJEPS.
Et au final, sur une journée comme celle-ci, le forum des associations, je vais finir par cette dernière question à vous quatre. Qu'est-ce que vous venez chercher là depuis ce matin? Les gens viennent vous voir, c'est justement trouver à la fois des bénévoles, trouver à la fois des nouveaux licenciés.
Nous, on vient, c'est plutôt la proximité et la facilité pour les gens. En fait, ils ont toutes les associations. Donc, c'est vrai qu'on voit pas mal de familles avec le petit frère, la petite sœur, donc plusieurs enfants. Donc, c'est vrai que je pense que pour les familles, c'est important d'être là pour éviter qu'ils se déplacent soit à un gymnase, qu'ils cherchent le stade et puis après la piscine ou la danse. Donc, tout le monde est là et c'est vrai que c'est un vrai plus pour la ville, je pense, et puis surtout pour tous les petits.
Yann, par exemple, également, qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui? C'est quoi un peu le but, en tout cas les bienfaits d'une journée comme celle-ci, le forum des associations?
Je vais rejoindre un peu ce qu'a dit juste avant moi au handball. C'est vrai que la présence est importante, déjà vis-à-vis de la collectivité qui nous accompagne toute l'année et tous les ans. Finalement aussi, on a ne serait-ce que déjà un devoir d'être présent vis-à-vis d'eux. Et puis après, c'est vrai que c'est important d'être proche aussi des gens qui constituent les familles, qui sont nos adhérents et les jeunes qui nous font confiance toute l'année. Donc c'est vrai que c'est important. Nous, on a un calendrier un peu décalé par rapport aux autres associations sur le fonctionnement, puisque on a déjà repris depuis un petit moment, et puis notamment sur la partie football. L'Omnisport reprendra que lundi après-demain, pardon. Mais c'est vrai que non, c'est important, ça reste des moments importants du milieu associatif mandois. Et c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir aussi des échanges avec les autres associations, avec l'ensemble du tissu associatif local, c'est important. Ça permet vraiment finalement d'être aussi un peu plus proche les uns des autres, qu'on ne se croise pas toujours toute l'année, on se croise même quasiment jamais parce qu'on est tous à des rythmes différents, que ce soit bénévoles, salariés. C'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir se voir, se croiser, avoir des échanges, donc c'est important.
Pareil, c'est ce tissu associatif et cette vitrine qu'on vient chercher de votre côté, Arnaud, avec le basket.
Oui, c'est un point de rencontre qui pour nous marque le début de la saison, parce que pour le coup la saison de basket commence maintenant, à peu près à tous les niveaux. Donc ça permet effectivement à chacun de pouvoir prendre l'information dont il a besoin. Ça permet aussi à certaines personnes de découvrir certaines activités. Bon, basket, c'est un peu connu, mais après, il y a tout un tas d'associations ici qui ont des pratiques pas forcément très connues de tout le monde. Donc même nous, on peut découvrir des choses. Ça permet effectivement aux familles de prendre des informations pour leurs enfants, savoir à quelle heure, à quel jour, quel moment ils peuvent venir pratiquer et puis dans quel cadre en fait. Voilà.
Peut-être
pour pas donner la parole à Anne sur la même question, on vient chercher des licenciés, on vient chercher des bénévoles aussi dont on a besoin. Pourquoi on est là finalement aujourd'hui ?
On est là parce qu'on aime les gens en fait, donc on vient rencontrer, comme a dit Arnaud, on vient rencontrer les autres bénévoles, on vient rencontrer les autres associations, discuter, comme a dit Yann. Enfin, on prend un peu le temps sur cette journée de jauger un peu tout ce qui se passe sur Mende, et je trouve que c'est important parce que voilà, je trouve que toutes les associations, qu'elles soient plus ou moins grosses, à sa place. Et c'est vrai que je trouve que c'est beau sur une ville comme Mende d'avoir toute cette diversité en fait à proposer à la population.
Un dernier mot pour conclure, Delphine aussi, sur pour terminer ce petit plateau. Vous aussi, la même question. Qu'est-ce qu'on vient chercher pour le Mende Lozère Volleyball sur ce forum des associations?
Dans le Mende Lozère Volleyball, on vient aussi pour montrer que le volleyball à Mende n'est pas mort, on est toujours là. Hein, et aussi nous recruter un peu aussi, puisque chez les plus jeunes, l'effectif pour les féminines, il n'y a aucun souci. Par contre, pour les garçons, on manque un petit peu de garçons. Donc, on va rappeler que le volley, c'est un sport qui se pratique autant par les garçons que pour les filles. On a même des équipes de garçons qui brillent beaucoup. On a une équipe de France qui est championne olympique, double championne olympique. Donc, ça serait bien qu'on ait quelques garçons qui veuillent bien rejoindre aussi les rangs du Mende Lozère Volleyball. Donc, ils n'hésitent pas.
J'amène mon fils.
Et ben Delphine, Anne, Arnaud et Yann, merci d'avoir répondu à nos questions pour ce premier plateau sur le sport qui ouvre nos différents plateaux radio ici en direct du Forum des associations de Mende 2026.
Cette émission spéciale en direct de l'espace événement Georges Frêche pour le Forum des associations. On attend des associations qui vont arriver, mais en attendant, il y en a une qui est ici avec moi, avec son président Laurent Brager, pour deux associations. Hein. On vient présenter deux associations, Saint-Vincent-de-Paul et l'épicerie solidaire, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Alors peut-être tu peux nous rappeler chaque association, en quoi elle consiste ?
Alors d'abord, Saint-Vincent-de-Paul, c'est la plus ancienne, et de Mende depuis 1839. Donc c'est une association qui a plusieurs cordes à son arc. On fait de l'accompagnement à la scolarité. On accueille une trentaine d'enfants du primaire et du secondaire chaque année. Donc c'est tous les soirs après l'école. Et donc pour ça, on a besoin de bénévoles disponibles durant l'année scolaire qui s'engagent à venir un soir dans la semaine pour accompagner les enfants. On fait des visites à domicile aussi pour les personnes seules et isolées, essentiellement sur Mende, mais on peut aussi se déplacer en dehors de la ville. On fait aussi des ateliers pour les personnes seules et isolées qui veulent passer l'après-midi. Alors, ateliers couture, tricot, etc. Et dans ce sens, on a un nouveau local qui va ouvrir ses portes d'ici à fin de l'année sur la place Charles de Gaulle à Mende, à l'ancien pressing, qui permettra de mieux accueillir les bénévoles, de mieux accueillir les personnes désireuses de faire un atelier, de partager un moment et de rompre la solitude et de partager un moment de convivialité avec d'autres. Voilà. Et ensuite, on a une autre association qui est l'épicerie solidaire Mende, qui elle donc existe depuis 10 ans et qui depuis un an et demi fait aussi de l'itinérance. C'est-à-dire qu'avant, on était la seule forme d'aide alimentaire participative sur le département. Et on nous a octroyé des crédits pour développer un volet itinérance. Donc on a mis en place un drive solidaire. C'est comme un drive normal où les gens qui ont accès à l'épicerie après être allés voir un travailleur social peuvent faire leurs courses en ligne. Et nous, on les livre une fois dans le mois, n'importe où en Lausanne. Donc on a 3 tournées. On va sur Saint-Chély, sur Marvejols, vers Langogne, vers Villefort, dans les Cévennes, partout où on doit aller sur le mois. Et voilà, et donc du coup, on a quand même une file active qui a doublé avec le volet itinérant, c'est-à-dire qu'on a à peu près 120 foyers sur l'année contre 60 avant.
Oui, ça augmente partout. Alors Thomas nous a rejoint avec la main tendue. Avant de te donner la parole, juste une question. Tu parlais de rechercher des bénévoles. Par contre, c'est assez spécifique parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas donner des cours de français ou ne peut pas...
Tout le monde peut aider un petit qui apprend à lire et à écrire.
Donc c'est vraiment ouvert à...
C'est ouvert à toute personne qui fait preuve de bonne volonté. La première condition, c'est être en capacité de donner de son temps. Voilà. Et c'est ce qui est le plus précieux pour une association, des gens qui donnent de leur temps. Voilà. Donc, comme toutes les autres, on cherche des gens qui veulent donner de leur temps.
Et oui, Ludovic l'a dit, je vous ai rejoint avec Julie et Mathilde de l'association La Main Tendue 48. Moi, je vais vous poser une question un peu toute bête, mais peut-être qu'on vous a posé, un peu candide, qu'on vous a posé ce matin quand on passe devant votre stand. La Main Tendue, qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que fait l'association? J'ai vu, vous êtes venu avec quelques papiers.
On est une association qui lutte contre le harcèlement. Donc on accompagne toute personne et leur entourage victime de harcèlement scolaire, au travail, sexuel. On a été créé il y a presque 10 ans. Alors c'est vrai qu'on est une toute petite association, donc on n'est pas trop connu. On commence à être un peu plus vu maintenant, c'est vrai, par nos partenaires, par la prévention qu'on fait également aussi sur les établissements. Mais on fait voilà, en priorité de la prévention et de l'accompagnement pour les victimes.
C'est vrai que c'est un sujet d'actualité. En plus, le harcèlement, on en parle énormément en ce moment. Et
Le harcèlement, on en a toujours beaucoup parlé. Ces 10 dernières années, encore plus. Hein, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Alors, les choses ont évolué. On voit que les choses avancent au niveau de la loi. Mais pour ma part, ça ne suffit pas encore.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être plus de dans le harcèlement? Moi, je pense au harcèlement scolaire, qui est un sujet qui, effectivement, avec 48 FM, on a pas mal parlé. Et comme le disait Ludovic, l'interdiction des téléphones portables étendue au lycée, c'est aussi l'une des mesures, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas petit à petit, avec le mouvement même MeToo, une sorte de libération de la parole? Vous l'avez ressenti quand même?
La libération de la parole, c'est quelque chose qui reste important. Nous, on prône ce côté au niveau de l'écoute. C'est ce qu'on dit d'ailleurs aux personnes qu'on accompagne, parce qu'on accompagne également les personnes sur le dépôt de plainte. S'ils font du dépôt de plainte, amende ou n'importe où, on est là aussi pour ça. Et c'est vrai qu'on dit souvent aux personnes que le plus important, c'est d'en parler, même si des fois, c'est compliqué.
Vous le sentez qu'en parler, ça peut briser un tabou et aussi, j'imagine que même pour les gens que vous accompagnez, ça doit faire du bien, comme vous le dites, la main tendue, vous prenez la main des victimes et vous venez à leur côté les aider.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'association comme ça. Alors, moi, je ne suis pas la fondatrice, je suis la présidente qui a repris la succession de Mme Dutheil, du coup, qui était la créatrice de cette association. Mais c'est vrai que quand elle a créé l'association avec Virginie, qui était une de ses amies de longue date, c'est vrai que c'est ce qu'elle a voulu mettre en avant. Et au départ, c'était parti vraiment d'un cas d'harcèlement au travail. Et puis les choses ont fait qu'avec les années, ça s'est ouvert sur le scolaire, le sexuel, parce que on a eu d'autres situations.
Le harcèlement en général, une question pour Julie ou Mathilde, mais qu'on pose aussi beaucoup sur ces plateaux radio-là. Qu'est-ce que vous venez rechercher dans une journée comme celle-ci, le forum des assos? C'est à la fois une vitrine, mais c'est l'occasion voilà, de garnir vos rangs, peut-être?
Nous, pour le coup, le forum des associations, c'est pour déjà nous permettre d'être un peu plus vus. Parce que c'est vrai que la com, ces dernières années... Bon, Christine, elle a l'habitude de faire certaines choses, mais c'est vrai qu'au niveau réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça, on a vraiment instauré, dès que j'ai pris la relève, du coup, j'ai fait faire les réseaux sociaux et tout, qui sont actuellement encore en travaux, parce que de nos jours, voilà, il y a beaucoup de personnes connectées. Et après, ça nous permet en priorité de se faire connaître et aussi recruter des bénévoles parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Très souvent, des fois, les gens viennent nous rencontrer sur le forum. Ils nous disent « Ah, ben oui, on est prêt à vous aider, machin. » Et des fois, on n'a pas de suite.
Vous, on vous connaît maintenant, Saint-Vincent de Paul, l'épicerie solidaire. Vous êtes une vitrine amande de l'aide aux personnes démunies. Vous venez chercher quoi, du coup? Bon, des bénévoles, on l'a bien compris. Et après, c'est pour votre présence, ça s'explique comment ici?
Mais un peu comme tout, être connu et reconnu, et puis que les gens aient à l'esprit qu'ils peuvent faire appel à nous. Donc, s'ils ont un enfant en difficulté scolaire, ils peuvent venir nous voir. Si quelqu'un a des problèmes économiques et qui veut avoir le relais de l'épicerie solidaire pour franchir un cap et passer une difficulté transitoire, donc il peut faire appel à l'épicerie. Enfin voilà, c'est pour ça aussi. Mais c'est sûr que la base, c'est essayer de trouver du monde pour mener à bien nos actions, comme tout le monde.
Actuellement, vous êtes combien ?
En bénévole, on est à peu près 60.
C'est déjà bien, ouais.
Ouais, mais il est faux.
Eh ben oui,
rien
oui.
Que pour l'accompagner à la scolarité, il en faut une trentaine.
Pour en donner quelques-uns à la main tendue.
L'épicerie solidaire, elle tourne avec 10 bénévoles. Ouais. Donc,
oui, oui.
Et on génère à peu près 7000 heures de bénévoles par an. Donc, si un équivalent temps plein, ça ferait 5 équivalents temps plein.
Effectivement, vu comme ça, c'est assez impressionnant.
Ça ferait 150 000 euros par an, en gros.
Mais c'est là qu'on voit que parfois... On le dit souvent, mais une association prend un peu le relais du service public à l'endroit où elle n'est pas. Et là, c'est un peu ce que
alors,
fait...
Il n'y a pas de tissu associatif. Les services publics, ils n'auraient pas la capacité de faire ce qu'on fait. Financièrement, ils n'y arriveraient pas. Donc, subventionner le tissu associatif, toutes les bonnes volontés qui veulent donner de leur temps, c'est autant de gains pour les services publics, quels qu'ils soient.
La main tendue, comment ça se passe? Vous avez des permanences pour recevoir les personnes?
On a, on a un numéro qui est sur la plaquette, qui est actif tout le temps, tous les jours, n'importe quand. On essaye quand même d'avoir, de faire tourner le téléphone, en fait, parce que nous, on n'a pas de local sur Mende. On a un endroit pour le siège, pour l'administratif, je veux dire, mais on n'a pas de local proprement parlé à nous. Après, on essaye de se débrouiller au maximum entre nous, parce que comme on n'est pas beaucoup, comme je disais au début, on se partage un peu les tâches et les personnes aussi qu'on accompagne en fonction du secteur, parce qu'on peut en avoir amende, comme je vous dis une bêtise, à Florac, à Langogne, ça nous est bien arrivé.
Et en termes de bénévoles, parce qu'on l'a dit, en fait, le harcèlement... Et malheureusement tellement prégnant et il y a tellement de types de harcèlement en fait qu'on a tous soit été victimes, soit frères de victimes, petits. Je veux dire, c'est autour de nous, donc c'est quand même quelque chose qui concerne et qui pourrait concerner tout le monde de devenir bénévole à votre association.
Bah oui, nous on est contre personne, soit en passant, nous on est toujours contents d'avoir un petit coup de main sur les préventions qu'on peut faire, sur les événements qu'on peut organiser sur l'année. On a notamment un vide-grenier qu'on fait une fois par an pour nous permettre de pouvoir réaliser d'autres choses pour les personnes que nous avons sur l'association. On fait également un colloque qu'on fait une fois... Alors maintenant, c'est tous les deux ans. Apparemment, Christine nous disait au début que c'était une fois par an. Puis bon, les choses ont fait que ça s'est un petit peu perdu parce que les gens ne venaient pas, parce que c'était compliqué. Alors là, on essaye d'en monter un autre. Mais bon, j'en dirai pas plus tant que c'est pas ficelé comme il faut.
Du coup, y a des psychologues avec vous ou comment vous pouvez orienter les gens ou vous êtes en lien avec des psychologues ou d'autres associations pour les orienter suivant leurs difficultés?
On est en partenariat avec... déjà, nous avons la maison protection des familles à qui on envoie quand même... on essaye régulièrement de personnes s'il y a besoin. Nous avons le CEDIF. Nous avons au niveau des partenaires... On a une psychologue alors qui venait pour les groupes de parole il y a deux ans. Quelque chose comme ça, je dirais à peu près. Au moins deux ans. Après, c'était une psychologue qu'on avait remplie pour instruire les groupes de parole. Et puis, les choses ont fait que ça s'est arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. On n'avait pas assez de personnes. Mais on sait qu'on a toujours cette personne qui peut être ressource si jamais on a besoin. Nous avons également tout ce qui est aux côtés de la justice, défenseur des droits. Nous avons également Quelqu'un au niveau de la CGT, j'ai failli mal le dire. Après voilà, on essaye vraiment de faire en fonction de la situation, hein, vraiment.
Et puis pour clôturer ce deuxième plateau, on accueille Nicole Hernandez de l'association L'Accueil des Familles des Détenus. Bonjour à vous. Peut-être une première question, mais quelle est un peu votre mission? J'imagine que là, en plus, vous êtes directement à droite quand on rentre en bas.
Voilà, c'est juste
bas,
avant la maison d'arrêt.
Donc on vous voit directement à ce forum des associations, oui. Mais les gens sont intrigués, ils viennent vous demander quel est un peu le but de votre association.
Au niveau du forum des associations, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup moins de fréquentation que le pôle sportif. Mmh. Voilà.
Mais j'ai vu sur votre site, c'est dit que donc vous avez des bénévoles qui tiennent des permanences.
Voilà, nous sommes une trentaine de bénévoles à peu près. Et nous avons des permanences tous les jours, il y a des parloirs, c'est-à-dire le mardi, le jeudi et le samedi après-midi. Donc on fait une permanence de 13h à 16h, 16h30 à peu près, puisque à la maison d'arrêt, il y a deux parloirs par jour. Et que nous avons quand même pas mal de personnes qui viennent de l'extérieur, d'où la raison de l'ouverture à 13h plutôt que 14h.
Oui, c'est ça, que concrètement, donc, vous aidez à accueillir les familles des détenus, des familles qui viennent parfois de loin pour voir leurs proches.
Voilà, parfois de loin.
Donc en dehors de la Lozère.
De la Lozère, oui. Nous avons vu il y a 2 ou 3 ans, nous avions eu une personne qui venait de Lille. J'ai eu une fois, nous avons reçu une dame qui habitait en Espagne. Voilà, donc bon, c'est essentiellement l'Occitanie quand même, hein, mais on peut avoir des personnes qui viennent de très loin, effectivement.
Du coup, vous les recevez où?
Alors, nous les recevons, nous avons une petite maison d'accueil juste avant la prison, sur le, je ne sais plus comment s'appelle le nom de la rue, pardon, sur la droite. Donc, c'est une maison dans laquelle nous avons toutes les commodités, hein, les personnes, ça se fait beaucoup moins maintenant depuis qu'il y a des restaurants style comme je ne fréquente pas, je ne me rappelle plus de leur nom, où ils peuvent manger des sandwichs, des choses de ce genre. Mais ils peuvent également faire réchauffer un plat chez nous, faire chauffer un biberon. Nous avons tout, nous avons une plaque chauffante, nous avons un coin pour charger les bébés, nous avons une petite bibliothèque pour les enfants, les jouets, voilà, on a un peu de tout. Et on leur offre café, boisson chaude ou boisson froide selon la saison. Et puis on les écoute, ils ont envie de parler de choses et d'autres, on est là à leur écoute. Et voilà, ça leur permet effectivement de décompresser.
C'est ce que j'allais vous dire en fait, c'est le moyen de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux, ce lieu.
Et de décompresser avant ou après, parce qu'il y en a qui reviennent après le parloir, pour un moment difficile.
J'imagine que c'est aussi le cas de l'épicerie solidaire, quand on reçoit les gens dans l'épicerie solidaire, c'est aussi un moment où on peut échanger avec eux.
Oui, surtout qu'avant le Covid, en fait, les gens pouvaient rentrer dans l'épicerie plusieurs en même temps. Et puis avec le Covid, il y a des règles sanitaires à respecter. Et on a gardé le biais de les recevoir les uns après les autres. Donc ils viennent faire leurs courses, mais c'est aussi un moment d'échange. Et pour certains, c'est presque le seul moment où ils vont sortir de chez eux. Voilà, ça arrive pour certains, ça. Donc c'est important qu'ils aient un temps où ils puissent discuter, échanger en dehors de l'alimentaire, qu'ils viennent chercher pour pouvoir discuter et parler à quelqu'un, quoi. En fait.
Les invités, Nicole nous disait qu'ils étaient là et notamment en recherche de bénévoles. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre association?
Nous recherchons toujours des bénévoles, hein, mais pour l'instant, nous sommes à peu près en nombre suffisant. Ça fait, l'accueil se fait avec 2 bénévoles à chaque fois et ça fait une rotation d'un après-midi par mois. Donc,
La main tendue, on peut donner le numéro de téléphone vu que c'est votre contact essentiel.
Tu veux le faire? Oui. Alors 06 33 84 91 et 85.
Et après, il y a un mail où on peut écrire, également nous écrire. Donc, c'est lamaintendu48@outlook.fr.
Pareil, vu que la main tendue donne ses réseaux, ses manières de les contacter, si auditeur, auditrice, peut-être que tout le monde n'est pas aujourd'hui au forum des associations, mais voudrait être intéressé, bah, vous aussi, comment on peut venir vous contacter, vous retrouver, si on est intéressé à venir travailler avec vous?
Alors, Saint-Vincent de Paul, c'est Sirius Saint-Dominique Amande. Et après, s'ils sont intéressés, on a notre assemblée générale lundi, place du Foirail, à 17h15. Sous la bibliothèque.
Nicole, également, si un mandois, une mandoise, l'Auxerrien, l'Auxerrienne voudrait vous rejoindre, rejoindre l'aventure, mais n'est pas ici aujourd'hui sur place pour vous rencontrer, comment
alors,
on vous contacte?
Nous avons notre siège social est à l'évêché, rue Monseigneur de Ligonnès. Donc autrement, si quelqu'un vient au moment des parloirs, les bénévoles qui sont là donnent mon numéro de numéro perso et je me propose de les rencontrer. Voilà.
Eh bien, merci d'être venu là. On va enchaîner avec un nouveau plateau d'ici à quelques minutes, c'est assez rapide. Mais après, on invite bien sûr les auditeurs ou à venir vous rencontrer directement au forum ou à vous contacter avec justement les contacts qu'on a donnés. On va faire une petite pause musicale et on revient d'ici à quelques minutes. Allez, on est de retour toujours en direct de l'espace événement. Georges Frêche pour ce forum des associations avec deux nouvelles associations qui nous ont rejoints. Et je les remercie d'être venus et d'être à notre antenne avec la paroisse Saint-Privat de Mende. C'est Maryse. Bonjour Maryse.
Bonjour.
Et nous avons aussi Ségolène et Louisa qui appartiennent au Scout et Guide de France Groupe Lozère. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Mais je vais peut-être laisser déjà présenter votre association, même si tout le monde connaît les scouts de France. En Lozère, ça représente quelle tranche d'âge et vous êtes combien à peu près?
Alors, les scouts et guides de France se sont organisés effectivement en plusieurs tranches. Ça démarre assez jeune par les farfadets de 6 ans à 8 ans. Ensuite, on a les louveteaux et jeannettes de 8 à 11. Ensuite, on a les scouts et guides de 11 à 14, puis les pionniers caravelles de 14 à 17, et enfin les compagnons qui sont les plus grands. Et donc, on a un groupe pour tout le département de la Lozère, et on a entre une dizaine et une vingtaine de jeunes selon la tranche d'âge, avec à chaque fois des chefs et cheftaines qui sont bénévoles et qui sont là pour leur apprendre à vivre l'aventure scout.
D'accord. Une cheftaine alors, Louisa?
Oui, c'est ça.
Voilà. Je me suis dit aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est scout? On a l'image de ces sorties au soir auprès d'un feu. Est-ce que c'est toujours le cas ou on fait encore plus?
Alors, il y a beaucoup de projets qui sont menés au cours de l'année et également pendant l'été. Donc, au cours de l'année, on va leur proposer en moyenne un week-end par mois, donc un week-end de vie dans la nature, donc camper sous tente. Effectivement, il y a l'image de la veillée au coin du feu. On fait toujours des veillées au coin du feu, même si l'été, ça devient compliqué avec les feux de forêt.
Eh oui.
Voilà. Après, il y a des projets qui sont à l'initiative des jeunes, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui proposent eux-mêmes des projets, donc par exemple des partenariats avec des associations. Cette année, on a fait un partenariat avec le Secours catholique, voilà, et où c'est les jeunes qui proposent une action à faire, ce qu'on appelle l'Odyssée, pour la tranche d'âge des 11-14 ans. Après, chaque tranche d'âge a ses particularités. Voilà, on essaye de leur faire vivre des projets où ils sont acteurs en fait, de la vie dans la communauté.
Par exemple, pour la fin d'année, on s'est tous retrouvés à la tourbière de l'Ajot avec le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, l'antenne de Lozère, et on a fait un week-end encadré par le CEN de restauration de tourbières et d'apprentissage, de découverte de la faune et de la flore des milieux humides.
D'accord, donc il doit y avoir beaucoup d'encadrants en Lozère parce qu'il y a beaucoup de sections.
Il en manque.
Voilà. On est là pour passer des appels.
Voilà, on est là pour faire un appel à toute personne. Alors moi j'ai 46 ans et j'ai encore ma chemise et je suis cheftaine. Je suis cheftaine parce que mes enfants sont très passionnés par les scouts et que si je voulais que ça puisse continuer, il fallait que je m'engage moi aussi. Donc j'ai repris mon foulard et ma chemise avec plaisir, mais il n'empêche que... on aurait besoin d'avoir un renfort. Dès 16-17 ans, on peut venir prêter main forte pour encadrer les jeunes et jusqu'à pas d'âge. Il y a toujours quelque chose à faire et on est vraiment en manque de bonne volonté.
Maryse, je vous vois regarder d'un œil bienveillant cette présentation.
Bien sûr, on est bienveillant avec les scouts. Ils font beaucoup de choses pour nous et avec nous au niveau des paroisses et on les en remercie. Ils sont très actifs.
Nous, on a eu une stagiaire de 3e qui était scout et elle a passé sa semaine à nous montrer ses photos de sortie de l'été précédent. Elle était émerveillée par tout ce qu'elle avait fait. Maryse, la paroisse Saint-Privat de Mende.
Alors, la paroisse Saint-Privat de Mende regroupe bien sûr la ville de Mende et les villages qui sont adjacents à Mende, hein, comme Badarou, Barjac, Le Chastel, Le Val-d'Aunaise également. Enfin, voilà. Tout ça, Chanac, ça dépend de la paroisse Saint-Privat de Mende. Il y a 5 paroisses sur le diocèse, dont Saint-Privat. Saint-Privat, que vous dire de la paroisse ? Ben, c'est notre cathédrale, hein, d'abord, hein, qu'on voit de loin et dont on est fier. Et puis, ben, c'est toutes nos équipes. On ne fait pas que du catéchisme, hein, de 0, on va dire, à plus de 77 ans, puisque le catéchisme, on peut le commencer à tout âge, avec des rencontres, avec des... tout ça, et c'est aussi d'autres actions, c'est-à-dire sur la paroisse de Mende, nous avons aussi, déjà, nous avons la maison diocésaine, avec notre évêque, notre nouvel évêque, hein, qui est un sportif accompli, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a fait le Marvejol Mende, donc ça, c'est pas courant, et qui est très ouvert, très simple à la population, qui vient du monde rural, ce qui est un bien pour la Lozère, puisque nous sommes dans un paysage rural, hein, principalement. Et ce que nous faisons aussi, ben, il y a aussi les aumôneries, c'est-à-dire les aumôneries de collège, de lycée et après. Nous avons aussi les aumôneries d'hôpitaux et de maisons de retraite. Et là, nous intervenons assez régulièrement, tant qu'on le peut. On demande bien sûr des bénévoles parce qu'on a toujours de plus de monde pour écouter ces personnes qui souvent n'ont pas de visite. Hein, parce que quand on prend un grand âge et l'âge est de plus en plus grand, dans ces établissements, ben, les enfants, petits-enfants sont loin, pris par le boulot, quand il y en a, quelquefois il n'y en a pas. Alors donc, nous avons ça, les aumôneries, et puis il y a la chorale Sainte-Cécile, dirigée par Benoît, de main de maître, et ça c'est formidable, les écouter, je ne sais pas si vous les avez déjà entendus, ils ne font pas que des chants religieux, ils font aussi d'autres choses, et c'est un plaisir.
Vous demander de chanter, mais alors vous n'en faites pas partie.
Je n'en fais pas partie parce que je n'ai pas le temps par rapport à toutes mes activités, mais quand je vais à l'un de leurs concerts, je chante avec eux.
Ouais, mais c'est ce que je
suis dans
vous
le
dire.
Public, mais je ne peux pas m'empêcher de chanter avec eux. Hein.
Mais enfin, c'est ce que je voulais vous dire, on ne s'ennuie pas alors. Hein.
Ah non, pas du tout. Donc, il y a aussi les camps de vacances. Donc là, je rejoins un petit peu, il y a les scouts, mais il y a des camps de vacances qui sont organisés également. Alors les camps de vacances, c'est des 7-11 ans, c'est des 11-17 ans, enfin il y a des groupes différents. Et voilà, ils vivent un peu comme les scouts aussi pendant ces camps de vacances. Et ça se passe vraiment très très bien. Alors il y a un nouveau chœur aussi, un chœur qui ne fait pas partie de la chorale Sainte-Cécile, tout âge. C'est-à-dire les enfants et tout, et qui vont se réunir de temps en temps comme ça avec Agnès Prévost, et voilà, pour faire des petites cérémonies, pour participer au moins une fois de temps en temps, organiser des cérémonies, des choses comme ça. Ce sont bien sûr des gens qui ne sont pas professionnels du tout, hein, qui viennent pour le plaisir d'être ensemble.
J'ai l'impression que ce qui vous réunit, c'est donc l'aspect religieux, mais aussi l'aspect social. Vous l'avez dit, vous emmenez les jeunes en tant que scouts de France dans la nature. C'est aussi une manière, je pense même peut-être pour les parents, de se dire, il y a eu le débat encore la semaine dernière, Emmanuel Macron était venu pour dire un peu stop au téléphone en milieu scolaire. Et on voit que les jeunes, même en Lozère, sont parfois de plus en plus déconnectés de la nature, même si elle est très proche d'eux, ils n'y vont pas forcément. Vous, cet aspect-là un peu environnemental, ou en tout cas amour de la nature, c'est aussi des valeurs que vous transmettez aux jeunes, la biodiversité, préserver notre faune, notre flore.
Effectivement, en fait, la méthode scout, elle repose sur 7 piliers et la vie dans la nature est vraiment un des piliers de la méthode scout. Donc, c'est vraiment inhérent au scoutisme. Et c'est vrai qu'on est parfois surpris que des enfants, même de Mende, en fait, arrivent à 8 ans, 9 ans, n'ont jamais campé dans la nature. Et c'est une première pour eux de se retrouver dans cette simplicité. Une simplicité qui est très joyeuse et très souvent ils en redemandent et pour les plus jeunes en tout cas le portable ou la tablette ou l'écran en tout cas ils restent à la maison et en fait ils sont pas du tout en demande, hein. Bon, quand ça tourne vers les ados, les plus grands, là ça devient un peu plus compliqué, mais en fait quand on leur propose l'alternative de jeux, d'aventure dans la nature avec les copains, ça les satisfait pleinement. On leur apprend aussi à apprendre par l'action en fait, donc ils vont être très acteurs et moteur même des actions de la vie quotidienne, c'est-à-dire préparer un repas, monter sa tente, faire sa vaisselle. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Il y a aussi les adultes qui sont là pour les soutenir dans la bienveillance. C'est vraiment un climat qui favorise l'épanouissement des enfants, le droit à l'erreur, le droit au test et voilà, l'accompagnement bienveillant des adultes.
On va arriver à la fin de l'interview parce qu'en plus je vois nos prochains invités qui vont arriver à la radio d'ici quelques minutes. Mais une question qu'on pose à chaque association pour ce forum 2026, votre présence ici, à quel but vous êtes là pour à la fois, j'imagine c'est une vitrine, montrer, regarder, on existe, mais vous êtes à la recherche de bénévoles, de besoins particuliers aujourd'hui?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est le forum des associations, c'est un moyen de nous montrer que le groupe existe et qu'on a besoin d'aide. On manque de bénévoles pour encadrer les jeunes, notamment la tranche d'âge des 8-11 ans, où pour l'instant, nous n'avons personne pour les encadrer. Pareil pour les 6-8 ans, on a besoin de parents volontaires pour les encadrer. Il nous manque également des personnes bénévoles au sein du groupe, donc pour la gestion du groupe, ce qu'on appelle les responsables de groupe. Voilà, qui... N'importe quel âge, que vous ayez fait du scoutisme ou non, on vous accueille, on vous apprendra.
Et comment on peut vous contacter du coup? Parce que si les gens entendent cette émission et qu'ils se disent « Ah mais tiens, moi ça m'intéresse », comment ils font? Ah, on recherche les contacts. Sinon, on appelle Maryse à la maison de diocésaine. Elle a un peu de temps, elle va chercher.
Sans problème. Sans problème, on se débrouille toujours.
Peut-être que pendant que vous cherchez, Maryse, vous, avec donc, la paroisse aussi, c'est une manière de vous montrer une journée comme celle-ci, aussi de recruter des forces vives.
Tout à fait, oui. On est là pour se montrer, pour montrer qu'on existe et pour recruter. En fait, on a beaucoup de gens qui viennent se renseigner pour le catéchisme, à tous les âges, hein, j'en ai eu tout à l'heure, vraiment tous les âges sont représentés au niveau de la catéchèse. Hein. Et puis pour les autres activités, parce que aussi il y a la marche, on fait beaucoup de choses au niveau de la paroisse pour rassembler les gens. Il y a des après-midi pour rencontrer aussi les personnes qui arrivent d'un autre secteur, qui ne connaissent pas le secteur. Donc il y a ces accueils qui se font également. Voilà. Les intégrer à notre vie lausérienne, c'est important.
Louisa, tu encadres un groupe du coup, toi?
Oui, j'encadre les 11-14 ans.
11-14 ans.
Guide, ouais.
Ouh là là, ils t'embêtent pas trop, ça va?
Non, c'est des collégiens qui sont un peu rebelles des fois, mais ils sont très volontaires et j'apprécie beaucoup d'encadrer cette tranche d'âge-là.
Super. On a trouvé un contact?
Oui, alors pour l'instant, nous avons une personne ressource qui vient du Gard pour soutenir le groupe. Hein. C'est pour vous dire à quel point voilà, on a besoin de coups de main. Et c'est Christina qui est notre ange gardien en ce moment. Et on peut joindre Christina au 06 86 46 83 30.
Merci à vous trois d'être venus sur 48 FM, sur notre antenne, pour présenter vos associations respectives. On va demander aux auditeurs de rester une petite pause musicale va s'imposer pour qu'on puisse changer de plateau et avoir nos nouveaux invités autour de la table. On va vous souhaiter une bonne fin de forum des associations et puis une belle réussite dans vos prochains projets.
Merci beaucoup.
Merci.
Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Vous êtes toujours sur 48 FM, il est 15h01 et nous sommes toujours au forum des associations 2026 de la ville de Mende, ici même à l'espace événement Georges Fraîche. Donc c'est la magie de la radio locale, c'est vous pouvez nous écouter et se dire bah, je vais faire un tour et je vais après rencontrer les invités que je vais entendre d'ici quelques minutes. On a déjà reçu pas mal d'associations et maintenant on a accueilli 4 nouvelles associations autour de la table. Je vais commencer avec Canny Fun et donc Céline, bonjour Céline.
Oui, bonjour.
Vient ensuite Sylvette et Elodie. Allô.
Bon, allô.
Alors, vous êtes un peu loin du micro, je vous laisse vous rapprocher. Merci à vous d'être venus donc, pour le comité de jumelage Mende Wunsiedel. Nous avons également avec nous le centre d'études et de recherche Benjamin Mardi avec Jacques et Jacques. Bonjour.
Jacques, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous. Et puis l'association La Voilà qui est également présent avec nous pour parler de leur association Michel et Sophie. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ah voilà, c'est pour de la musique, on a déjà un canon ou un duo vocal qui se précise. On est là pour parler des associations, on l'a dit hein, depuis le début de ce plateau-là, le tissu associatif lausérien et mandois particulièrement est très important et fait vraiment vivre la ville préfecture. On va commencer avec Canifan, qu'en plus on a reçu hier nous déjà pour un sujet radio, présenter un peu l'association et vous avez aussi bientôt un événement qui se précise assez important pour cette fin septembre.
C'est ça. La Canifun, le week-end du chien, en fait, c'est une association qu'on a montée depuis 2023. On a commencé par faire l'événement sous le nom d'une autre association, puis ça a bien fonctionné. On était sur un jour au départ, et puis on est passé sur deux jours, et on a monté cette association. Donc notre objectif, en fait, c'est de mettre en place différentes activités qu'on peut faire avec les chiens. On a notre événement qui gravite autour de quatre concours phares. La Tunnel Cup, le Cani Parcours, un défilé déguisement et un Cani Show. Cani Show, c'est un concours de beauté. C'est ouvert à tout le monde, tous les chiens, tous les propriétaires de chiens peuvent venir avec ou sans chien. Et y a du spectacle, il y a plein de choses à venir voir.
Et même le grand public, il n'a pas de chien parce qu'il il va y avoir beaucoup d'animations durant ces deux jours.
C'est exactement ça, oui. On a des activités qu'on peut faire avec les chiens, mais d'autres activités que vous pouvez observer sans avoir de chien. Par exemple, le dog dancing. Qui est une démonstration, il y aura quatre démonstrations par jour de dog dancing. C'est des gens qui dansent avec les chiens, qui font une chorégraphie avec leurs chiens et qui dansent avec le chien. Donc ça, c'est chouette à voir. Et il y a d'autres démonstrations comme le hooper, qui est un dérivé de l'agility.
Et puis j'imagine que la Lozère, quand on est propriétaire, en tout cas quand on a un chien, c'est quand même un super terrain de jeu.
Exactement. On est sur le terrain des frères, sur le Cosdemande, à côté d'Inopédia. On a choisi celui-là parce que c'est en pleine nature et c'est vraiment ce qu'on aime quand on a un chien, c'est aller se balader en pleine nature. Et en Lozère, ça manque quand même les activités à faire avec son chien. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a lancé cette association.
Alors c'est les 19 et 20 septembre. On a vu toutes les associations qu'on a reçues qui sont toutes en recherche de bénévoles. Pour en avoir parlé avec vos collègues hier, vous aussi, vous avez besoin de personnes pour cet événement qui arrive très vite.
Oui, exactement. Chaque année, on arrive à avoir une vingtaine de bénévoles, mais toujours plus, c'est mieux, hein. Et après, on va placer les bénévoles dans différents postes, que ce soit en lien avec les chiens ou en lien avec la buvette, par exemple, parce qu'on a une buvette sur place. Donc voilà, l'accueil des participants, on a pas mal de postes.
Alors, je vais tenter une transition. Est-ce que vous apprenez à vos chiens à chanter, à aboyer en rythme ?
Bah alors, moi, personnellement, mon chien, il s'aboyait sur commande, mais tous les chiens ne le font pas.
Ils pourraient peut-être rejoindre l'association. Là, voilà.
Quelle transition.
je fais comme je peux. J'essaie de d'improviser. Oui, effectivement. Donc, on l'a dit, Michel et Sophie autour de la table à ma droite avec l'association. Là, voilà. Bah, justement, c'est un peu peut-être une question qu'on vous a posée depuis ce matin. Les différents mandoises ou mandois qui vous ont rencontré. Qu'est-ce qu'on vient y faire si on s'inscrit, on devient licencié ou je ne sais pas comment on pourrait dire de votre association. Quelles sont un peu les activités de La Voilà ?
La Voilà, c'est des activités musicales et vocales pour toutes et tous de 2 ans jusqu'à ce que vous en ayez envie. Voilà, Michel qui est à côté de moi fait partie des doyennes, mais la plus jeune dans sa tête, ça c'est sûr. Après, il y a de l'éveil musical, initiation musicale, on peut faire du chant, de la guitare, du ukulélé, on peut faire chant et ukulélé en même temps, c'est pas un problème. Donc il y a des cours en collectif, des cours individuels, ça s'adapte le plus possible aux emplois du temps, à votre emploi du temps, pour faire une découverte.
C'est une toute jeune association
? Oui, on s'est créé en 2023. Voilà.
Du coup, ça montre que le tissu associatif est très vivant et bouge et qu'il y a toujours de nouvelles associations sur le territoire. Vous dites éveil musical, ça veut dire que des fois on ne se dit pas que, mais dès 2 ans, c'est même, j'imagine, pour aussi le cerveau humain d'un plus jeune, on va aussi le dire pour une personne un peu plus âgée, faire de la musique, c'est toujours intéressant musicalement et aussi pour le cerveau, ça fait du bien de faire de la musique.
Bien sûr, c'est un super outil pour le bien-être, pour s'éveiller au monde extérieur, parce que à l'éveil musical, on va pas faire juste écouter de la musique, on va vivre la musique, on va bouger sur la musique, on va taper sur avec des petites percussions, etc. Donc du coup, on va faire une découverte qui va être sur plusieurs étages, qui va être multisensorielle. Et après, quand vous allez prendre des cours de chant un petit peu plus grands, par exemple, c'est pareil, on essaye d'avoir plusieurs canaux qui vont être sensibilisés, et du coup, pour votre cerveau, ça va être un énorme développement. C'est vraiment le meilleur remède anti-âge de faire du chant, de toute activité d'ailleurs, mais faire du chant en fait partie, et en plus ça procure énormément de bien-être et de joie, parce que chanter, ça, vous avez de l'ocytocine et tout ça, voilà, donc qui sont en train d'être sécrétés, c'est la dopamine, tout ça, tout ce qui rend heureux également. Donc du coup, pratiquer le chant et la musique, ça fait du bien à la tête et au corps.
Mais on entend souvent des personnes qui disent j'aurais aimé me mettre à la musique plus tôt, je ne l'ai pas fait, donc c'est trop tard. Mais en fait, vous dites non, c'est jamais trop tard. On peut à 40, 50, 60 et même encore plus tard apprendre à faire du ukulélé, de la guitare, chanter. Il n'y a pas d'âge pour commencer.
Il n'y a pas d'âge pour commencer. Michel,
Michel,
elle a commencé.
À 70 ans.
Voilà, elle a commencé. Elle a commencé le ukulélé aussi. Voilà, alors on ne dit pas que ça va être. C'est sûr, ça peut demander peut-être plus de temps qu'un enfant de 7 ans, par exemple, qui est en plein apprentissage à l'école. Et effectivement, ça va peut-être prendre plus de temps, mais il n'est jamais trop tard. Et puis surtout, il n'est jamais trop tard pour se faire plaisir.
Michel, justement, je vous laisse mettre le micro vers vous, mais racontez-nous un peu justement ce parcours-là, de se dire à la retraite, à 70 ans, je me mets à chanter et faire de la musique. Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Ça m'a apporté beaucoup de plaisir et beaucoup de bien, parce que moi, différemment, j'avais des petits soucis de santé, j'avais perdu ma voix et j'ai toujours aimé chanter, mais je ne savais pas placer ma voix, je ne savais pas chanter. Et j'ai trouvé Sophie qui m'a beaucoup aidée à retrouver ma voix et à apprendre à chanter. Mmh. Et à placer ma voix et à faire un petit peu de ukulélé pour le plaisir.
Peut-être on va enchaîner avec, on va vous reprendre plus tard avec d'autres questions, mais le développement neurologique par la musique, ça pourrait être l'une des conférences du centre d'études Benjamin Vardy, non ?
Absolument, je crois que ça pourrait être une conférence. Donc si vous voulez venir présenter votre activité, ce sera avec plaisir. Bon, on en reparlera.
Parce que c'est bien ça. Donc, je pense que vous êtes aussi une association qui est très très reconnue maintenant à Mende. Mais on a toujours de néo-lausériens, néo-mandois qui arrivent sur le territoire. Donc, présentez un peu cette association du CERBB.
Oui, le Centre d'études et de recherche Benjamin Bardy. Donc, actuellement, il a pour objectif, disons, la découverte du patrimoine, sa recherche, sa valorisation, ainsi de suite. Donc, surtout sur le département de la Lozère, mais aussi ailleurs. Hein. Donc, ces activités, c'est d'abord des conférences toutes les semaines, qui durent une heure, avec des participations assez importantes, puisqu'on a 100 participants minimum, des fois même jusqu'à 130, 140, c'est énorme. Et on est quand même 260 adhérents séparés qui règlent leurs cotisations, plus une trentaine ou quarantaine qui viennent comme ça. Donc on peut dire qu'on n'est pas loin de 300 personnes. Donc c'est quand même une association qui doit marquer sur la Lozère et sur Mende particulièrement. Voilà.
Et vous avez un réseau important, parce qu'il y a toujours des intervenants de qualité qui viennent lors de ces conférences.
Je n'ai pas parlé effectivement des. On a des intervenants qui viennent de partout, même de Paris, tout ça. On va avoir quelqu'un qui vient, je crois, de Toulouse sur la grotte Chauvet. On va avoir quelqu'un qui est inspecteur d'académie au Caire, qui va nous parler de la maîtrise des eaux, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec le Nil, le barrage. On a Sylvette Baïde qui est ici, qui vient nous parler d'Angela Merkel. Oui, tout est varié. C'est quelque chose qui marche très fort. Voilà, mais je vais donner la parole à mon vice-président. Oui, super.
Justement, vous, Jacques Malavier, c'est ce qui vous a plu de qu'effectivement, chaque mercredi soir, un mercredi en fin de journée, une conférence qui amène beaucoup de monde. C'est pour nourrir une curiosité où on peut passer vraiment du coq à l'âne d'une semaine à une autre, mais à chaque fois avec des intervenants de qualité pour continuer à apprendre et à avoir cette ouverture d'esprit.
Oui, mais je dirais qu'on s'efforce d'avoir un champ de vision très large, c'est-à-dire il y a des conférences qui parlent de sciences, des conférences qui parlent uniquement de certains aspects de la Lozère très pointus, du patrimoine, des choses comme ça. mais on essaie quand même d'ouvrir au maximum également sur des problèmes actuels, des problèmes de société. Enfin, vous avez vu qu'il y avait quand même un petit problème avec le réchauffement climatique. Donc on essaie aussi de faire des conférences qui prennent en compte tous ces problèmes d'actualité et toutes ces choses qui font qu'il va falloir réagir à un moment ou à un autre. Alors, on touche beaucoup de gens. Je dirais que le seul inconvénient, si on peut dire, de notre association, c'est que l'essentiel, mais c'est le cas de beaucoup d'associations, l'essentiel des adhérents sont des retraités. Et on aimerait toucher un peu plus des jeunes, des enseignants ou pas, ou des étudiants, enfin des gens. Tous les sujets qu'on traite pourraient intéresser des gens de tous âges. Et sachant que les conférences sont ouvertes au public gratuitement aussi, même ceux qui ne sont pas adhérents, ça pourrait être une bonne entrée vers... Voilà.
J'allais dire, il y a peut-être quelque chose qui peut nous rejoindre, nous, en tant que radio, mais vous, c'est on fait aussi, nous, beaucoup d'éducation aux médias d'information. Dire que de plus en plus, on peut être noyé par plein d'informations avec Internet, apporter son lot de bonnes choses, mais également de mauvaises choses. C'est parfois difficile de trouver le vrai du faux. C'est aussi ça un peu que ce que vous faites. Vous permettez, voilà, avec entre guillemets, en venant labelliser l'information avec une conférence. C'est aussi pour que les gens dans ce monde qui part un peu à droite à gauche de pas se perdre. Et je parle par exemple des fake news et des fausses informations. Quand on vient voir une conférence organisée par vous, c'est aussi une manière de se rapprocher de la vérité, peu importe le sujet.
Alors, je ne sais pas si la vérité existe, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que quand on fait des conférences, ce soit des conférences grand public. Mais grand public, ça ne veut pas dire raconter n'importe quoi à n'importe qui. C'est des conférences en général qui s'appuient sur, si c'est des conférences scientifiques, sur des données scientifiques récentes et à jour, pas sur des fake news, évidemment. Donc, on essaie de transmettre tout ça. Enfin, moi, j'ai toujours fait ça dans ma carrière parce que je considérais que c'était un devoir pour quelqu'un qui fait de la recherche de transmettre aussi un peu de son savoir au niveau du public. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très important justement de donner aux gens non seulement de l'information, mais de leur donner surtout des éléments de connaissance qui leur permettent de se faire leur propre idée sur le fait que telle information est bonne ou n'est pas bonne du tout, quoi. Enfin, c'est très compliqué quand on est livré aux médias actuels de faire le tri et on est submergé de choses qu'on n'arrive pas à traiter. Donc le côté grand public, moi je pense que c'est fondamental pour ça, quoi. C'est pour ça que ça serait bien s'il y avait plus de jeunes qui venaient à nos conférences, aux autres activités, parce qu'on organise aussi des excursions qui mélangent souvent le patrimoine, des aspects scientifiques, ça peut être de la botanique, de la géologie, l'analyse des paysages. Donc c'est vraiment très intéressant pour ceux qui participent, mais évidemment on aimerait toucher plus largement. Alors, on a fait quelques conférences qui ont été filmées par KWZ-TV. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de diffuser largement. Et surtout, ça permet à des gens qui n'ont pas l'occasion de venir, soit parce qu'ils travaillent, soit pour d'autres raisons, d'accéder à certaines. Mais bon, on ne peut pas faire ça à chaque fois. C'est lourd et compliqué.
Alors, si vous avez entendu un téléphone sonner, c'était peut-être Angela Merkel qui essayait de joindre la présidente de Mandin Zidel. Ou pas, c'était peut-être pas elle, hein. Non, ce n'était pas elle. Ah, dommage, on aurait pu la faire passer en direct, ça aurait été bien, ça nous aurait mis un coup de projecteur sur notre radio associative.
Bon, il est vrai que nous avons fait une conférence sur elle, et invitée par le CERF, justement, notre but en tant que comité de jumelage franco-allemand, c'est de mieux faire connaître l'Allemagne. Et puis de faire en sorte que l'Allemagne nous connaisse mieux. Alors l'Allemagne, c'est surtout ses habitants, l'histoire, la géographie, la civilisation, enfin tout, quoi. Voilà. Et veiller au rapprochement franco-allemand, dans la mesure où on a vu ce que ça a donné dans l'histoire, et pour que ça ne recommence jamais. Voilà, alors je pense que le but de tous les comités de jumelage, c'est plus ou moins le même, celui-là. De faire en sorte que les deux pays se rapprochent plus. Enfin, moi, dans une autre vie, j'ai été professeur d'allemand. Alors, je connais bien l'Allemagne, j'y suis beaucoup allée. Bien que j'ai appris l'allemand ici à Mende, comme quoi tout est possible ici. Et puis voilà, quoi. Alors,
on parle de l'Allemagne, mais il faut aussi parler de Wunsiedel.
Voilà, alors Wunsiedel, je vais vous la présenter. Brièvement, c'est une petite ville qui se trouve dans le nord de la Bavière, en Franconie. Et qui est jumelée avec Mende depuis 1982. Voilà. Et sur l'initiative d'ailleurs d'un professeur d'allemand du lycée Chaptal. À l'époque, bon évidemment c'est 1982, je pense que nous sommes le plus ancien de toutes les, enfin la plus ancienne de toutes les associations présentes ici. Alors il se trouve que moi j'y étais. Non, c'est vous les premiers?
Non, non, oui. Bon. Ici autour du plateau, oui.
Ah oui, c'est ce que j'ai voulu dire.
Ah, c'est ça.
C'est ce que j'ai voulu dire, excusez-moi. Alors, donc, voilà, ça a commencé en 1982, quand il y a trois Allemands qui sont venus ici à Mende pour voir un peu si Mende pouvait correspondre à leur ville, le Wunsiedel. Voilà, apparemment, l'échange a été fructueux. Et il se trouve que moi, j'étais en vacances chez mes parents et que j'ai pu faire les traductions à ce moment-là, vous voyez. Alors, donc, je peux dire qu'au début j'étais là et qu'à la fin aussi. Voilà. Bon, alors, revenons-en à Wunsiedel. Wunsiedel se trouve donc dans une région boisée, un peu comme nous. Quand on arrive, on trouve que Mende et Wunsiedel ont beaucoup de paysages en commun. On ne se sent vraiment pas dépaysé. Voilà. Alors déjà, c'est ce qui rapproche les deux villes. Bon, après, c'est une ville en Allemagne. À peu près, alors qui a perdu beaucoup d'habitants ces dernières années à cause de la réunification, parce qu'avant, avant 1992, ils avaient des usines de porcelaine qui sont parties après se relocaliser en Allemagne de l'Est. Donc, ils ont forcément perdu des habitants.
Oui, c'était le cas dans plein de villes à cette période-là. Oui.
Voilà, et d'autant plus que Wunsiedel se trouve près de la frontière tchèque. Vous voyez ? Alors donc, voilà. Et puis sinon, écoutez, il y a eu une évolution. Alors nous sommes très fiers, évidemment, d'avoir pu faire perdurer les bonnes relations entre nos deux villes et qui, petit à petit, ont pris de l'importance. Enfin, pas une très grande importance, hein, parce que l'Allemagne n'est pas un sujet qui attire en général. C'est une image un peu difficile.
Votre présence ici, pour revenir au Forum des associations, vu que c'est l'objet de la journée, vous êtes en recherche de bénévoles, vous êtes là pour vous montrer, c'est quoi votre objectif?
Alors disons que d'abord c'est de présenter notre comité, et notre comité en général il est assez connu, puisque nous sommes là depuis 1982, mais l'Allemagne, ça reste un peu particulier, on va dire, par rapport à d'autres comités de jumelage, l'Italie, le Portugal, enfin, c'est pas pareil. Bon. Et puis, alors, donc, il y a ça, pour faire perdurer les bonnes relations franco-allemandes, et il y a beaucoup d'échanges qui sont encore, qui ont été mis en circulation petit à petit, vous voyez, des échanges entre les lycées, des échanges entre les mairies, des échanges tout simples avec certaines personnes qui sont allées en Allemagne, qui sont revenues, qui se sont fait des amis.
Et voilà. La venue annuellement du maire de Wunsiedel qui est là. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est très intéressant, mais en fait, on a jusqu'à 15h20. Il est 15h21, donc il va falloir qu'on accélère le plateau. Je suis désolé. Comment on peut joindre pour venir chanter au sein de l'association, la voilà.
On peut me contacter sur mon portable au 06 70 04 39 02 ou alors en tapant Sophie Bélise ou la voilà sur Google. Et en général, voilà, il y a toutes les infos sur le site.
Il y a également des nouveautés cette année.
Oui, parce que du coup, j'ai passé un diplôme. Parce que avant, j'étais une prof de chant qui était chanteuse et du coup, qui faisait un peu avec ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait un peu appris. Et du coup, j'ai passé un diplôme. Et donc, du coup, cette année, il y a du coaching et il y a des masterclass. Donc, il va y avoir 4 masterclass. Et le masterclass, c'est un sujet, un thème en particulier. Vous venez, on essaye de travailler ensemble. Et puis, il y a des personnes qui peuvent simplement regarder et apprendre de ce que de ce que les autres vont apprendre dans cette masterclass.
Donc, enfin, un peu l'actualité. Donc voilà, ça c'est, on l'a dit en partie, les masterclass vocales qui vont arriver, une nouveauté, plus l'éveil musical, le chant ado, adulte, les cours individuels de chant, de ukulélé et de guitare. Donc Canifun, on peut le redire, du 19 au fin septembre, sur le cause demande, votre grand week-end autour du chien et plein d'animations. Venez avec ou sans chien. Ce n'est pas un souci. Peut-être pour vous, le CER, le Centre d'études et de recherche Benjamin Bardi, la saison a déjà repris. C'est vrai que souvent, il faut pousser les murs pour venir voir vos conférences. Ça a repris la saison avec de nouvelles conférences.
On reprend la fin septembre et toute l'année jusqu'au mois de juin, fin juin. Voilà. Par contre, on a des conférences qui sont soit à la salle Urbain 5, oui. Donc salle Urbain 5, c'est 150 places, ou à la salle Jean Jaurès.
Et peut-être justement, on sait déjà le programme de cette première conférence, on peut en dire deux mots pour terminer.
Oui, la première conférence c'est le lundi, lundi d'habitude c'est le mercredi, lundi 28 septembre, sur la plus grande course de traîneau, de chiens de traîneau au monde, en Alaska, donc par quelqu'un qui a fait cette course et qui va venir nous la raconter ce jour-là. Voilà, ça c'est la première conférence. Après, on va avoir une conférence sur la qualité des eaux et la maîtrise des eaux de l'Antiquité à nos jours sur le Nil et le barrage d'Assouan. Puis on va avoir aussi une conférence sur la grotte Chauvet. Hein. Je passe parce que j'en ai, mettre. Voilà, déjà,
De toute façon, on les annonce à chaque fois dans nos informations locales.
Oui.
Donc,
vous la recevez là, oui, voilà, oui. D'accord.
C'est pour les premières et peut-être. Avec vous, Elodie, on le disait, donc le grand moment de l'association du jumelage Mandwunzidel, c'est forcément le moment où les échanges se font. Mais toute l'année, vous vouliez aussi avoir des activités autour de ce jumelage. Vous pouvez en dire deux mots.
Alors la prochaine échéance pour nous, c'est le voyage scolaire à Wunsiedel qui aura lieu lors des marchés de Noël. Et ensuite, on aura le repas bavarois et l'assemblée générale. Donc, ce que disait Sylvette, ce que nous, on aimerait maintenant, c'est diversifier un peu les activités, peut-être un petit peu plus ouvrir à la population, redynamiser et rendre l'allemand attractif. Donc, on essaye de mettre en place de nouvelles activités pour l'année 2026-2027.
Donc, on peut venir vous contacter pour ça.
C'est ça.
Merci à tous nos invités et à ces quatre associations d'avoir été présents. Donc, je rappelle, Canifun 48. Le Centre d'études et de recherche Benjamin Bardi, le comité de jumelage Mandwunzidel. Et là voilà, donc voilà, on invite nos auditeurs, auditrices à venir vous contacter ou carrément venir jusqu'à 17h ici même pour vous rencontrer pour ce forum des associations. Et on continue et on va terminer avec ce cinquième plateau pour nous en direct de l'espace événement Georges Fraîche demande pour ce forum des associations 2026. Vous l'avez entendu depuis qu'on a pris l'antenne à 13h30, la diversité et l'écosystème, le tissu associatif mandois est assez grand et encore une fois très divers. C'est donc un exemple de plus avec nous et trois associations qui nous ont rejoints pendant cette pause musicale. Et on accueille par exemple Nicole de l'AMAP du Gévaudan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous avons également Charles de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et puis également Louis et Dominique pour l'association des jardins familiaux de Mende. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et je vais peut-être commencer avec la MAP, parce qu'on n'a pas encore parlé forcément de ce genre d'association dans le différent tissu et la différence d'associations qu'on a pu recevoir toute cet après-midi. Une AMAP, c'est un mot qui parle à beaucoup de personnes, mais quand même, est-ce qu'on peut représenter notamment la MAP du Gévaudan on a toujours à la rentrée pendant l'été des nouveaux habitants qui arrivent sur le territoire, donc qui ne vous connaissent pas encore. Qu'est-ce que c'est la MAP du Gévaudan?
Alors la MAP, donc déjà c'est pour signifier le maintien d'une agriculture paysanne de proximité. Donc en fait ça permet de faire se rencontrer des producteurs locaux et des adhérents consommateurs en fait. Et le but c'est surtout aussi de soutenir donc, ces paysans locaux et d'avoir un lien avec eux. De pouvoir aussi parfois visiter leurs fermes et donc connaître un peu leur façon de travailler et de voilà, de découvrir différents types de producteurs.
La MAP, il me semble que si on adhère à la MAP, on peut vous voir tous les mercredis midi, c'est ça, même d'ailleurs ici même, juste en dessous, oui, de l'espace événement Georges Frêche. En fait, une fois qu'on adhère à la MAP, on a une espèce de catalogue de différents producteurs locaux et on vient, entre guillemets, faire ses courses dans un circuit, avec le circuit court lausérien.
Oui, en fait, il suffit de commander en ligne sur le site internet. Et quand on vient, alors tous les mercredis, il y a les légumes et le pain. Mmh. Et ensuite, une fois par mois, il y a tous les autres producteurs. Mmh. Du coup, tout est prêt, en fait, quand on vient chercher les produits.
Vous avez l'habitude de dire à la MAP que vous n'êtes pas des consommateurs, mais des consommateurs. Vous venez de l'expliquer, parce qu'on peut visiter des exploitations, on peut donner un coup de main des fois si les personnes ont besoin. Et ça, c'est important, c'est plus que je viens chercher à manger, ça va plus loin que ça.
Oui, c'est être sensible aussi à peut-être les problèmes que peuvent rencontrer certains producteurs et en discuter. Et du coup, quand on achète un produit, on achète aussi tout un travail derrière et peut-être aussi on respecte plus leurs produits, c'est-à-dire qu'effectivement les légumes, je veux dire, ils sont un peu parfois, un peu, mais comme on a dans notre jardin, quand on le fait nous-mêmes, un peu tachés ou voilà, mais on sait qu'ils vont être bons par contre. Voilà.
C'est le cas à l'association des jardins familiaux de Mende. C'est bon, ils sont bons les produits et ils sont tachés des fois.
Les produits qu'on produit aux jardins familiaux, bah, c'est naturel, il n'y a pas de travaux faits spécialement. Chacun prend ses graines, fait ce qu'il a envie et parfois il y a les aléas de la nature, il y a des bêtes qui viennent, qui se posent, qui pondent et ça fait des trous sur les tomates, sur les poivrons. On va dire que les légumes, des fois, ont des formes très bizarres. Mais ça n'empêche pas de les manger. Hein.
Rappelez-nous le principe des jardins familiaux de votre association.
Là, je vais laisser Louis, puisqu'il a le récapitulatif de l'association.
C'est une association qui existe depuis 1948.
Donc, c'est pas mal.
nous avons un terrain à notre disposition au chapitre qui est à peu près 144 parcelles de jardin. Et comme nous partageons certains jardins en deux, nous divisons, nous avons 151, 152 jardiniers qui en bénéficient.
C'est fermé maintenant du coup? Parce que j'imagine que vous devez avoir des demandes chaque année de gens qui vivent dans des appartements qui aimeraient pouvoir...
On a toujours une liste d'attente, donc les demandes, on les reçoit quotidiennement et elles sont récapitulées, on les inscrit sur liste d'attente et puis... Le jour de l'Assemblée Générale ou une semaine après, nous faisons les attributions en fonction des jardins qui sont disponibles.
L'association, elle sert juste à gérer ces jardins ou vous faites des choses ensemble, des animations, des rencontres?
L'association ne fait pas que gérer. Enfin, c'est une association fermée quand même, on n'est pas ouvert au public extérieur. Mais entre nous, nous avons des journées qu'on appelle des journées de travaux collectifs. On en fait deux, trois par an. Et ce qui donne après chaque matinée, c'est ça se passe par matinée. Nous avons après un moment convivial où on partage les choses. Et pour resserrer un peu tout ça, nous avons au mois de juin chaque année, nous organisons une soirée grillade. On appelle ça soirée grillade. Chacun apporte son petit sa contribution et puis voilà, on passe au moment ensemble, surtout quand il fait beau.
Mais ce que je notais, c'est ça, qu'en plus d'organiser entre guillemets la logistique des terrains, il y a aussi de l'achat, de la répartition d'engrais, de semences, d'outils, j'imagine. Non. En plus que...
Non, ce que nous mettons à disposition des jardiniers, ce n'est pas des engrais, ce n'est pas de la semence, nous mettons simplement des outils à disposition, nous avons des brouettes, nous avons un rotophile, qu'est-ce que nous avons de plus?
Non, c'est ça, brouette, rotophile et...
C'est tout.
Non, c'est tout. Si quelques outils pour le nettoyage, pour curer, quand on fait des travaux.
Ouais,
non, on n'a pas. Effectivement, il y a des associations de jardins où ils fournissent les graines, moyennant finances toujours. Mais bon, c'est quelque chose de très difficile à gérer maintenant parce qu'il existe tellement de variétés de légumes que ça nécessiterait des moyens importants. 150 jardins à gérer, c'est quand même pas facile. Ouais. Alors, il y a une particularité quand même, parce que Louis tout à l'heure parlait de la soirée grillade, c'est que c'est un espace multiculturel, voilà. Dans le jardin. Donc nous avons des gens d'un peu tous les pays. Nous avons des Ukrainiens, des Portugais, des Albanais, des Turcs, des Français,
des Marocains, des Algériens,
du Maghreb. Et dans cette soirée grillade, la particularité, c'est que chacun amène quelque chose. Nous, on fournit les grillades. Et par contre, pour, on va dire, les entrées, les légumes, chacun amène quelque chose. Donc, par exemple, on a les dames turques qui nous amènent des feuilles de vigne farcies. On a d'autres dames qui nous amènent des recettes du Maghreb. On a des gens du Portugal qui nous amènent des saucisses portugaises. Voilà, donc c'est surtout quelque chose de multiculturel et convivial.
Eh bien, vous me direz la date en off, comme ça je viendrai vous rendre visite. Pour faire le pont avec la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique, avec la sécheresse de cet été, ça donnait quoi, les jardins ? C'était plus compliqué ?
Très compliqué. Au niveau jardin, c'était compliqué parce que les jardins, ils ont eu très chaud. Donc, les légumes, ils se sont mis un petit peu en sommeil. Un exemple, les tomates, il faisait tellement chaud que les premières fleurs, elles ont séché, elles n'ont même pas été pollinisées, elles sont tombées. Et maintenant, quand les nuits sont maintenant un peu plus fraîches, ça refleurit, ça se repollinise, mais bon, la récolte, à savoir si elle sera bonne. Voilà. Oui. C'est un exemple. Et après, nous avons des restrictions d'arrosage aussi.
Les terrains, les légumes ont eu très chaud, les poissons aussi, c'est toujours le cas. Il me semble, on a fait plusieurs sujets donc cette année à 48 FM sur la fédération, les actions qu'ils mènent. Et rien que je trouve que, rien que dans le nom de l'association, ce n'est pas forcément une fédération de pêcheurs, mais comme vous dites, souvent vous êtes les premiers en première ligne pour la protection du milieu aquatique.
Ouais, effectivement, on compte quasiment, un peu plus de 10 000 membres finalement sur la Lozère. Et c'est autant de sentinelles qui sont au bord de l'eau. Et c'est les premiers à nous alerter quand il y a des soucis qui sont visibles. Et des fois, malheureusement, les soucis sont aussi invisibles dans l'eau. On travaille pour la pêche, c'est un fait. Mais du coup, la pêche, c'est un loisir qui repose aussi sur le vivant. Et de ce fait, on s'intéresse et on étudie aussi toutes les cohortes. Faune flore qui gravite autour de ces milieux aquatiques. Donc effectivement, un été comme celui qu'on vient de vivre est particulièrement délicat, notamment pour une espèce qui est certainement la plus emblématique en Lozère, c'est la truite fario. Et cette année, on n'a pas constaté de grosse mortalité, néanmoins on sait qu'on atteint des températures notamment qui sont vraiment limites pour la survie de l'espèce.
Et ça, c'est une espèce qui aime l'eau froide. À partir d'une vingtaine de degrés, me semble, 20, 21, 22,
ouais.
La truite ne peut plus survivre. Et alors, moi, le premier pour m'être baigné cette année dans le Tarn, des fois, j'ai halluciné de la chaleur, malheureusement, du cours d'eau.
Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet du Tarn, c'est intéressant de souligner, on a une association à Florac, là, qui gère toute la haute vallée du Tarn, qui a lancé un travail d'études thermiques sur le Tarn, parce que c'est un cours d'eau qui chauffe énormément. Néanmoins, on connaît des réseaux de résurgence et d'exurgence qui arrivent d'Écosse avec des températures d'eau qui sont plus faibles. Et c'est aussi des secteurs sur lesquels les poissons vont trouver un refuge thermique intéressant. Donc l'idée, c'est de les qualifier, de savoir les déterminer pour aussi pouvoir peut-être protéger un peu mieux ces zones, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de l'eau, notamment sur le Tarn, et peut-être qu'il y a quelques secteurs un peu clés pour la survie de ces espèces. Donc voilà, on a des associations sur le terrain qui font un super travail à ce niveau-là pour essayer de conserver la biodiversité aquatique.
Tout à l'heure, ça a été dit avec notamment les scouts de France, les cheftaines qui étaient là pour nous présenter l'association et qui nous disaient on a beau être avec des enfants lozériens, parfois à 10, 12 ans, c'est la première fois qu'ils vont faire une randonnée, on les emmène camper. Je dis ça parce que il y a aussi l'école de pêche pour dire que parfois les enfants lozériens, mais pas forcément que les enfants, mais on a beau être en Lozère, on connaît parfois mal la biodiversité. Vous faites par exemple beaucoup d'actions auprès du jeune public pour qu'ils connaissent. Alors vous, entre autres, c'est mieux le milieu aquatique ?
Ouais, alors il y a un très gros volume qui est réalisé sur les animations scolaires. Ça va parler autant du cycle de l'eau que du cycle de vie d'une espèce en particulier, que des invertébrés qu'on va retrouver dans l'eau, ou tous ces sujets-là, au-delà de la pêche, en fait, effectivement, c'est des sujets qu'on aborde. Et effectivement, la déconnexion à nos milieux naturels, elle se constate même ici, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, Des fois, on a l'impression de l'extérieur qu'on est, on habite un coin de verdure magnifique, c'est le cas, mais n'empêche qu'on s'isole toujours un peu plus. Et de fait, on a besoin d'accompagner les gens pour aller découvrir ces territoires, quoi.
Justement, peut-être sur cette déconnexion parfois de personnes qui ne sont plus assez proches de la nature et qui, bah voilà, comme ça s'est dit, la déconnexion, Nicole, Louis ou Dominique, vous la constatez ou est-ce que vous dites aussi justement grâce à la map ou grâce au jardin collectif, ça permet aussi de garder un contact avec la terre ? Qui veut réagir ? Par exemple, la map, c'est ça aussi, c'est le circuit court, mais on reste connecté à un circuit court et à bien manger, bien boire.
Et aux produits de saison.
Oui, des produits de saison. Du coup, on reste connecté avec le cycle aussi naturel. Et parfois, on a la possibilité aussi d'aller donner un coup de main aux producteurs aussi, ce qui...
Donc, par exemple, est-ce qu'il y a, vous avez un exemple concret d'une action récemment, ou pas forcément, mais qui a eu au fil de l'année, où des membres de la MAP sont allés donner un coup de main dans une ferme lazarienne ?
Parfois on aide au ramassage de patates, parfois aussi si le paysan plutôt, les pieds de patates sont infectés d'oryphore, parfois il nous sollicite, il fait un appel, et les gens qui peuvent y aller, s'organisent aussi, font du covoiturage et vont aider le producteur. Voilà.
Louis ou Dominique, on le disait, est-ce que avoir son jardin, être connecté aux saisons, aux légumes, aux fruits, c'est aussi une manière de, au final, être une sentinelle, c'est le mot de sentinelle pour les pêcheurs au bord des cours d'eau, mais être une sentinelle, en tout cas, faire attention à ces sujets-là, environnementaux.
Nous sommes très très concernés par ce sujet. Donc, à partir du moment où nous avons un jardin là, c'est sûr que nous sommes tous...
Oui, mais nous, on a un exemple typique quand même du changement climatique.
Ah, oui.
C'est qu'il y a 40 ans en arrière, pratiquement, on ne pouvait pas faire pousser de tomates ici à Mende. Maintenant, on en est à ramasser des melons et des pastèques.
En plus.
Et donc un changement climatique effectivement que les jardiniers se rendent compte parce que dans le temps on faisait des pommes de terre, des carottes, des navets, des poireaux, et là on arrive à des cultures maraîchères tout autres, quoi. Donc oui et non, parce que malgré tout c'est un petit univers, donc on voit pas tout ce qu'il y a autour, mais les jardiniers se rendent bien compte qu'il y a un changement, et surtout dans la difficulté maintenant avec l'arrosage pratiquement depuis 3 ans.
Depuis 3 ans, on a l'arrosage, et puis nous avons déjà vécu pendant 2 ans de suite des inondations du jardin, même 2 fois, qui se sont répétées 2 fois dans l'année à cause de ce changement, parce que quand nous avons des pluies, ce sont des épisodes cévenols. Donc le Lot au niveau des jardins, il déborde pratiquement systématiquement maintenant.
Il y a eu un problème aussi pour les poissons au niveau de l'éclosion. Il y a eu des épisodes cévenols à ce moment-là, il me semble.
Comment, pardon ?
Il y a eu un problème au niveau des poissons, au niveau des éclosions. Il y avait eu des épisodes cévenols.
Alors effectivement, ouais, c'est des cas un peu particuliers, mais la truite a une reproduction hivernale. Et d'habitude, effectivement, ces épisodes cévenols, ils arrivaient à une saison où c'est plutôt assez automnal. Ça va avoir un effet plutôt positif sur la rivière, c'est-à-dire que ça va nettoyer un petit peu le cours d'eau, ça va générer aussi des substrats qui sont idéaux pour la reproduction de la truite. Mais cette année, on a eu une crue particulièrement tardive quand même. Donc c'est arrivé au moment où les truites avaient déjà pondu leurs œufs qu'elles laissent dans le gravier au fond de l'eau. Et la crue a été si puissante qu'effectivement, ça a certainement levé le gravier, etc. Ça a bougé le fond de la rivière profondément, et donc on est sur une année où les truites la reproduction était très mauvaise, alors que l'année d'avant était excellente. Ça, c'est les aléas, effectivement, et les changements climatiques, ça met aussi les espèces, effectivement, à rude épreuve à ce sujet-là, parce que elles sont pas habituées à survivre à ces conditions ni estivales ni hivernales.
Peut-être on dresse un constat qui n'est pas forcément très positif. Donc moi, je voudrais finir ce plateau, mais également cette émission, par peut-être des bonnes nouvelles. Et moi, je voulais dire, par rapport à la Fédération de pêche, que les jeunes, quand même, on l'a dit, s'intéressent de plus en plus. Je crois qu'il y a même au niveau national, mais c'est ressenti en Lozère, une explosion, en tout cas une progression significative du nombre de cartes de pêche de moins de 18 ans. Voilà, donc plutôt pour les les enfants. C'est le cas, ça veut dire qu'il y a un renouveau, il y a un attrait pour la pêche de la part des jeunes générations?
Oui, effectivement, ça se manifeste. Entre 2025 et 2026, on a gagné 1000 cartes dans un département comme la Lozère. C'est pas anodin. Et je pense que la consommation du loisir pêche évolue un petit peu. Je mets des guillemets, donc je le dis parce que vous n'allez pas le voir. Mais on consomme la pêche différemment. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont très tournés sur les réseaux sociaux et ça leur ouvre aussi des nouvelles portes. Et ils vont faire des choses qu'on n'a pas fait nous. Et c'est super parce que ça nous bouscule un petit peu dans nos habitudes, mais en même temps, c'est une révolution qui est hyper positive. Et en attendant, effectivement, ils vivent la pêche au travers des réseaux, mais ça les entraîne aussi directement au bord de l'eau. C'est génial, quoi.
Est-ce que justement, peut-être avec aussi les nouvelles générations qui se posent beaucoup de questions sur le dérèglement climatique, ce genre de choses, vous le voyez aussi que, je sais pas, il y a un intérêt plus fort sur autant les circuits courts pour la MAP ou alors autant des jeunes à 20, 25, 30 ans qui se disent je veux aussi avoir mon bout de jardin et faire mes légumes, autant pour des raisons économiques, j'imagine, mais aussi des raisons environnementales.
Nous, on a constaté qu'on n'avait pas un renouvellement de jardin de jeunes. De jeunes. Parce que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui demandent un jardin. Et puis quand on leur attribue un jardin, qui voit souvent, parce que ce sont des jardins qui ont été délaissés l'année précédente, il y a du travail pour le remettre en état, il y a de l'herbe. Donc quand ils ont visité le jardin, ils disent non, s'il y a trop de travail, voilà. Tandis que si une personne a 40, 45, 50 ans, elle va dire oui tout de suite. Voilà. La différence, elle est là. Et ça, c'est depuis.
Il y a toujours eu.
C'est toujours. Ça n'a pas évolué.
D'accord, Domi. Au niveau de la MAP, il y a des jeunes qui viennent.
Pas énormément encore. On a un peu de mal à capter un peu des plus jeunes. On commence à avoir quand même un peu plus de jeunes parents qui sont soucieux de l'alimentation qu'ils peuvent donner aussi à leurs enfants. Et donc, comme là, les produits sont sains et. Du coup, aussi bon au goût et bon aussi pour la santé.
Ils sont pas plus chers, il faut le préciser.
Et pas
aussi.
Trop cher non plus, non. Même parfois, moi, j'ai vu le même fromage vendu dans une grande surface plus cher qu'à la MAP, par exemple. Voilà. Et puis, c'est pas des prix forcément excessifs comme je pense certains le croient. Voilà.
Moi aussi, pour l'avoir vécu personnellement en venant récupérer des paniers de légumes à la MAP, c'est aussi des fois l'occasion. En fait, on sélectionne pas les produits, on a le panier et moi plusieurs fois. Je suis tombé sur des légumes que je pense que je n'aurais pas acheté et on s'y intéresse et on va cuisiner des produits qu'on ne ferait pas forcément d'habitude. Il y a ça aussi qui est intéressant.
C'est la même chose pour moi. Des fois, ils sont plus ou moins faciles à trouver une recette, mais les maraîchères nous guident aussi, nous donnent des idées et du coup, après, on peut découvrir de nouveaux légumes, effectivement.
C'est quelque chose aussi qui arrive au jardin, c'est que la mixité fait qu'il y a des produits que des gens ont amenés et qui ont fait connaître à d'autres et il y a des choses qui se cultivent. Alors vous donnez des choses comme ça, par exemple, il y a les petits poivrons fins de Harrisoy que au début on s'est demandé quoi et c'est des petits poivrons très fins, très doux, qui ressemblent plus à des piments dans la forme, mais on va les appeler piments parce que c'est vraiment doux. Et ça fait partie des choses. Vous cultivez ça comme ça, vous faites ça avec. Et ça donne l'idée de découvrir d'autres façons, des fois, d'utiliser les produits.
Oui, avec les Turcs, on a cet exemple au côté. Au début, quand j'avais le jardin, je l'ai depuis 96 ans. Les Turcs, ils ne savaient pas ce que c'était les pommes de terre. Ils mettaient des haricots. C'était le pain pour eux, le haricot. Et puis, tout doucement, ils se sont mis à cultiver, à agrandir la parcelle de pommes de terre et diminuer la parcelle de haricots. Voilà, c'est pour dire que ça évolue comme ça pour tes petits trucs.
On donne un numéro pour la MAP avant de clôturer cette émission. C'est l'heure de finir. Ou un mail ou un site internet.
Alors, il y a le site internet www.mapmande.org. En fait, le mieux, c'est de taper la map du Gévaudan dans l'adresse.
Voilà, il y en trouve direct.
Et on vous retrouve aussi les mercredis midi.
Sinon, on peut venir vous voir directement pour avoir des informations. La Fédé de pêche, on a un contact.
Bon, pareil, l'idéal, c'est de taper Fédération de pêche de Lozère sur Internet. Vous allez tomber sur notre site. Vous pouvez nous contacter par mail, nous appeler. Tout est disponible sur le site Internet.
OK. Et pour l'association
Effectivement, il y a une adresse mail que je n'ai pas là, mais si on cherche les jardins familiaux aux demandes, on la trouve. C'est une adresse dans le genre les jardins familiaux aux demandes, arrobas.
On la trouvera en tapant. Ouais, tapez pas quelque chose, ça marchera pas. Thomas.
Je vais clôturer cette émission. Donc Nicole de la MAP du Gévaudan, merci d'avoir été avec nous. Charles de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique également, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci.
Et puis Louis et Dominique de l'association des jardins familiaux demande, merci d'avoir été avec nous, présents pour ce forum des associations. On va nous clôturer donc cette émission. On peut dire merci à la ville de Mende pour nous avoir accueillis aujourd'hui à l'espace événement Georges Fraîche ce samedi. Vous pouvez encore venir, hein, il y a encore toutes les associations présentes, donc n'hésitez pas à venir rencontrer le tissu associatif lozérien et peut-être vous inscrire à une des activités diverses et variées sur le territoire. On va rendre l'antenne. Merci Ludovic aussi pour la technique et l'animation. Et on se retrouve pour un prochain plateau radio plus tard.
Allez, c'est parti. Merci à tous. Bonne fin de journée.
Merci.